Eh bien, bonsoir. J'appartiens à une organisation qui s'appelle European Partners for the Environment, partenaire européen pour l'environnement, qui est co-organisatrice de cette rencontre. J'ai le plaisir d'avoir Sacha dans le conseil d'administration ainsi que Dasha. Et nous allons effectivement avoir cette dernière session sur le thème « L'agenda 2030 peut-il fonder le renouveau de l'Europe du 21e siècle ?» Courte introduction, nous sommes à un moment de l'histoire où chacun d'entre nous est témoin de la fin d'un monde. La fin d'un monde économique, la fin d'un monde social et probablement aussi la fin d'une certaine façon de voir notre relation à l'univers. Au moment où on est à la fin d'un monde, on peut y voir des risques ou des opportunités. Pour ce qui concerne le monde, l'humanité, le choix aujourd'hui, c'est entre la construction d'une nouvelle civilisation, ce qui est d'ailleurs le projet chinois, la civilisation écologique proposée par le gouvernement chinois, ou bien il y a d'autres scénarios qui sont ceux de l'effondrement. Et vous trouvez sur YouTube suffisamment d'exposés en la matière. Et la question, évidemment, est de savoir dans quelle mesure l'agenda 2030, qui est intitulé « Transformons notre monde », peut être le vecteur pour transformer notre Europe. En sachant que nous n'avons pas que des amis, et qu'il y a même une longue liste de différents types d'acteurs qui ne visent qu'à une chose, c'est à démanteler l'Union européenne en tant que telle. Nous avons nos adversaires à l'extérieur qui ont comme leader le président des États-Unis et le président de la Russie pour des raisons diverses, mais avec le même objectif, qui veulent la fin du multilatéral. Et dans ce contexte-là, vous pouvez regarder le Brexit comme étant un indicateur, un laboratoire. Donc nous avons nos adversaires à l'extérieur, nous avons aussi un certain nombre d'acteurs à l'intérieur de l'Union européenne qui ont des objectifs quasi similaires et qui forment d'ailleurs une alliance. C'est dire que le moment est chaud et aussi intéressant parce que c'est l'occasion ou jamais de se dresser et de proposer une vision positive des choses qui soit en mesure de rassembler les individus, les citoyens, les citoyennes, et évidemment, les élections qui vont venir seront un moment particulièrement intéressant. Alors, nous avons un panel qui est tout à fait remarquable, parce que vous allez voir, nous allons passer d'une partie de l'Europe à une autre. Nous allons avoir des représentants qui vont vous parler de différents types de problématiques que nous avons pour se saisir de cette opportunité de transformer notre Europe. Et nous allons aussi avoir l'occasion de passer de pays qui vont les uns après les autres prendre la présidence de l'Union européenne dans les 18 mois qui viennent. Donc, accrochez-vous. J'espère qu'au bout du compte, vous aurez une vision peut-être un peu différente du discours et du débat parisien habituel sur les prochaines élections européennes. Je dis ça après avoir entendu parler d'un certain débat qui s'était passé sur une certaine télévision. Donc, vous allez voir autre chose. Alors, je commence par donner la parole à Madame Anna Kaisa Itkonen. You are the spokesperson for.
Vous êtes porte-parole de la Commission européenne sur le climat et l'énergie. Récemment, la Commission a publié deux documents qui doivent être évoqués ici, puisque ensemble, il propose une vision. Et donc, Madame, comment envisagez-vous l'avenir de la transformation en Europe? D'abord, il y a la vision de l'UE pour 2050 sur le changement climatique. Et puis, le document de réflexion de la Commission sur la mise en œuvre de l'agenda 2030. Un livre de Jeremy Rifkin était intitulé « Le rêve européen ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Eh bien, Quel est le rêve européen du 21e siècle sur cette base et comment est-ce que vous transcririez ça dans l'action ? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup au Comité 21 de m'inviter à prendre part à ce panel. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui sont restés jusqu'au dernier panel. C'est un exploit considérable pour un vendredi après-midi. Effectivement, nous sommes au cœur d'un processus politique, électoral, qui va donner son résultat dans quelques semaines. Et maintenant, plus que jamais, l'Union européenne doit se concentrer sur ses tâches fondamentales. On entend parler d'une crise de l'Union européenne, les crises migratoires, le terrorisme international, des élections qui sont perturbées à la fois depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Il y a une crise climatique, il y a une crise économique et financière, il y a le Brexit, pour ne citer que quelques-uns de ces défis. Et en même temps, régulièrement, nous demandons aux citoyens européens, via l'Eurobaromètre, quelles sont leurs plus grandes préoccupations et quels sont, selon eux, les défis les plus importants. Et donc, selon le dernier Eurobaromètre en date, les trois préoccupations les plus importantes, c'est la gestion des migrations, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le changement climatique. Et s'il y a un dénominateur entre ces trois enjeux, c'est que nous n'y répondrons que par la coopération internationale. En même temps, ces trois questions sont extrêmement clivantes en Europe. Certaines interventions dans le panel précédent montre qu'avec le mouvement pour le climat et les jeunes qui battent le pavé, ça commence déjà à influencer la popularité des partis écologistes ou des autres partis électoraux qui ont au moins une dimension verte dans leur programme électoral. Mais en même temps, dans de nombreux parlements nationaux, dans beaucoup d'États membres, on voit que les partis populistes gagnent du terrain, puisque ce sont souvent eux, les partis populistes, qui préconisent de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme et la crise des migrations, tout seul, sans coopération internationale. Je vais vous donner un très bon exemple et un exemple très concret. La Finlande, mon pays tout honneur, qui est prise en sandwich entre la Suède et la Russie. Nos élections ont lieu ce dimanche et le parti de droite populiste se porte très bien dans les sondages et ils convainquent leurs électeurs en disant que si la Finlande lutte contre le terrorisme et les flux migratoires internationaux seule, c'est le mieux. Et je répète, la Finlande est au nord, prise en sandwich entre la Suède et la Russie. C'est une rhétorique, mais ça n'a aucun sens, puisque souvent ces mouvements vendent des idées à des gens et le résultat, c'est toujours le contraire. Donc, si nous voulons apporter une réponse aux citoyens européens et opérer une transition vers des énergies propres, vers une lutte contre le changement climatique, le défi qui se posera à la Commission et aux institutions européennes, ce sera d'assurer la justice sociale de cette transition. Il faudra que cette transition soit acceptable pour nos citoyens. Comme je vous l'ai dit, nous arrivons en fin de cycle, en fin de mandat politique. Et c'est une grande satisfaction pour moi, au nom de la Commission européenne, de dire que maintenant, l'Union européenne a la stratégie et le cadre le plus ambitieux de lutte contre le changement climatique au monde. En un temps record, nous avons réussi à prendre à bras-le-corps certains des plus grands défis de notre époque, à savoir la transition progressive depuis les carburants fossiles jusqu'à une économie propre. Et les mots-clés pour nous sont avant tout la durabilité et l'action pour le climat, et une transformation de l'économie européenne de manière juste au plan social et acceptable. Et c'est notre réponse aux préoccupations de nos citoyens. Parce que les citoyens, ils nous disent qu'une partie de la population européenne y perd au change avec la mondialisation, et que maintenant il est temps de rentrer chez nous et d'oublier le multilatéralisme. Le rôle de l'Union européenne pour le développement durable a une dimension mondiale. N'oublions pas que sans l'Union européenne, il n'y aurait pas d'accord de Paris. L'Union européenne est une superpuissance de la lutte contre le changement climatique au niveau international. Nous sommes la seule partie à l'accord de Paris qui a déjà respecté tous ses engagements au titre de l'accord de Paris. Nous sommes le seul budget public qui a généralisé les questions de lutte contre le changement climatique et de durabilité dans l'ensemble de son budget. Pour le prochain budget septennal, le cadre financier pluriannuel, au moins 25% du budget sera consacré à la lutte contre le changement climatique. Et nous sommes également le contributeur numéro un au financement international du climat, ce qui répond aussi à la question posée au panel précédent. On a demandé ce que fait l'Union européenne à l'intention des pays qui ne sont pas membres de l'Union, afin qu'eux aussi participent à l'effort contre le changement climatique. Eh bien, voilà. Et donc, lorsque l'on parle de modalités d'interaction avec les citoyens, il faut se rappeler qu'il ne suffit pas de les montrer du doigt. On dit aux citoyens, il ne faudrait pas prendre autant l'avion, il ne faudrait pas manger autant de viande, c'est mauvais pour l'environnement. N'oublions pas que la responsabilité des politiques, c'est de créer le cadre politique approprié. Et notre action actuelle se concentre justement sur le niveau politique. Cette transition, elle doit s'opérer de manière juste et acceptable au plan social. Nombreux sont ceux qui nous disent « Oui, mais les élections européennes ne sont pas les élections les plus populaires, si on veut. Le taux de participation est relativement faible. » Et beaucoup de gens nous demandent « Mais pourquoi est-ce que je voterais ? Pourquoi est-ce que je m'en occuperais ? Est-ce que ce ne serait pas plus important de voter aux élections locales ou même aux élections nationales ?» Mais bon, nous sommes ici entre amis et je pense que nous sommes tous d'accord sur l'importance des élections européennes. Mais si nous voulons vraiment apporter des solutions mondiales et européennes à ces problèmes, bien il faut savoir que l'Union européenne dispose déjà d'un cadre pour atteindre cet objectif. Et donc si nous voulons vraiment européaniser notre vision de la lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique, eh bien, notre cadre, il peut être transcrit de manière mondiale, mais aussi dans des pays en dehors de l'Union européenne. Mais ça passera par un renforcement de l'Union européenne. Et puis, en introduction, vous avez évoqué le président des États-Unis et le président de la Russie. On a bien vu ce qui s'est passé lorsque Trump a pris ses fonctions. Il a dit que les États-Unis quittaient l'accord de Paris sur le climat. Et cela n'a fait que renforcer la présence internationale de l'Union européenne. Immédiatement, nous avons comblé le vide laissé par les États-Unis et nous avons commencé à coopérer avec la Chine, qui est le responsable de la plus grande quantité d'émissions pour un pays, et aussi avec le Canada. Donc nous avons pris un rôle de leadership pour combler le vide laissé par les États-Unis. Et c'est comme ça que nous répondrons aux préoccupations de nos citoyens, puisqu'il faut absolument un cadre adapté pour protéger l'environnement et assurer la durabilité. Il faut aussi être capable de résoudre d'autres problèmes, tels que les phénomènes migratoires, qui ne vont être qu'accentués par le changement climatique. Et la seule manière de le faire, c'est le multilatéralisme et la coopération internationale. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Nous reviendrons sur le cas de la Finlande pendant la deuxième salve de questions, puisqu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Finlande a un rôle clé, notamment la Finlande va présider le Conseil de l'UE pendant le deuxième semestre. Nous allons passer à Günther Bachmann. Vous êtes directeur du Conseil allemand du développement durable. Et comme vous le savez toutes et tous, cette année, nous allons avoir un nouveau Parlement européen, un nouveau président de la Commission européenne, un nouveau président du Conseil européen, un nouveau président de la Banque centrale européenne. Donc nous sommes à un carrefour parce que ces nouvelles personnes vont être le fer de lance de nos activités pendant les 5 prochaines années. La nouvelle Commission européenne, celle qui sera élue après les élections européennes, devra proposer un plan d'action pour les objectifs de développement durable et puis l'Allemagne va présider le Conseil pendant le deuxième semestre 2020. Vous jouez un rôle consultatif auprès du gouvernement fédéral allemand. L'Allemagne, bien sûr, est le pays clé de tous ces débats. Donc, quelle est, selon vous, la perspective allemande sur le processus de renouvellement européen ? Merci, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je ne peux qu'abonder dans votre sens, dans ce que vous avez dit dans votre introduction. L'agenda 2030 est le cadre sine qua non pour la paix, la démocratie, la sécurité, dans les limites des ressources que nous donne notre planète. Et quand j'utilise la première personne du pluriel, je parle de l'organisation que je représente, donc le Conseil du développement durable en Allemagne. Nous avons un rôle consultatif auprès du gouvernement fédéral. Nous ne sommes pas convaincus du document de réflexion publié par la Commission européenne. Pour nous, c'est un document qui nous laisse pieds et poings liés. J'ai énormément de respect pour ce processus, puisque je vois que ce document a finalement été produit, enfin, et je comprends qu'il y a des difficultés, mais c'est un document politique qui doit être analysé de manière politique. Il n'y a aucune vision, aucune créativité, rien de nouveau en somme. Et quand je lis toute cette rhétorique sur l'Europe qui serait un leader mondial de la technologie, je ne suis pas non plus convaincu. L'Europe n'a pas la faveur des pronostics. Nous sommes loin d'être leaders, où que ce soit dans le monde. Donc pour moi, nous devons garder en tête la réalité et bien nous rappeler quel est notre sort. Et moi, pour la manière dont je lis les résultats du Conseil européen cette semaine, est très différente. Si vous enlevez les éléments diplomatiques, bien on voit clairement qu'il va falloir agir différemment et surtout d'une manière différente que celle préconisée par la Commission dans son document. C'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme « stratégie de mise en œuvre européenne » en tant que quatrième ou cinquième option. Et même si je suis d'accord avec cette formulation, même si je pense que l'Europe doit définir la marche à suivre en interne en Europe, même avec l'aide au développement, bien, la partie importante ne change pas. La technologie, les procédures, la prise en compte des citoyens dans les décisions politiques, c'est ça qui va permettre la stabilité du résultat. Et ça, l'Europe doit avancer là-dessus. Et en ce qui concerne la politique agricole, par exemple, et les subventions agricoles, pour l'instant, nous sommes complètement à côté de la plaque. Nous sommes en train de nous mettre des bâtons dans les roues en Europe. Et il y a eu une réunion du Conseil hier et avant-hier. Comme vous le savez, il y a un cycle politique en Allemagne. Nous avons un groupe de secrétaires d'État qui se réunissent régulièrement. Ils prennent des décisions sur notre stratégie de développement durable. Et donc, 6 ou 8 semaines en amont, nous avons en quelque sorte placé nos paris, pour ainsi dire, sur les différents départements, pour voir ce qu'il y avait à faire. Et on se disait que maintenant, il faudrait un livre blanc sur le processus européen et le processus onusien sur le développement durable. Nous nous sommes engagés à faire plus pour la coopération multilatérale. Ça, c'est ce qui s'est fait à New York. Et nous nous sommes également engagés à accélérer le soutien à apporter aux autres pays. Mais maintenant, nous sommes en train de dire que pendant la présidence allemande, au plus tard, cette nouvelle stratégie européenne de mise en œuvre devrait être en vigueur, au plus tard. Mais nous savons que les Finlandais sont très efficaces, donc nous sommes certains qu'ils pourront le faire avant. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup.
Vous êtes parlementaire de la région de Bruxelles-Capitale, mais une des raisons pour lesquelles vous avez été invité ici, c'est que vous avez été ministre de l'Environnement de la région bruxelloise. Et de par le système belge, les ministres régionaux peuvent présider la délégation belge au Conseil des ministres de l'Environnement. Donc vous connaissez bien la machinerie communautaire des conseils des ministres de l'Intérieur. Et en même temps, vous êtes une représentante du parti écolo, donc les Verts. Et Bruxelles est une des capitales de l'Europe qui a connu à plusieurs reprises des démonstrations des jeunes pour le climat, qui ont d'ailleurs apparemment fait beaucoup d'impression au président du Comité économique et social, d'après ce que j'ai entendu récemment. Alors, vous, dans vos responsabilités politiques, vous voyez donc tout d'un coup arriver sur la scène un disrupteur, c'est le mouvement des jeunes. Comment, en tant que responsable politique, voyez-vous le développement sur le plan européen dans les mois et les années à venir?
Voilà. Merci beaucoup. Ça fait à la fois plusieurs casquettes, effectivement, que je porte, et à la fois plusieurs questions aussi qui vont de la question globale, locale jusqu'à la question globale et de l'avenir de l'Europe. Donc, j'ai décidé d'être quand même un petit peu optimiste, même si je viens d'entendre la personne à côté de moi, qui ne me porte pas beaucoup d'optimisme pour l'Europe. Mais on va dire, et on le sait tous, qu'on est dans un momentum européen où on parle beaucoup aujourd'hui à la fois de populisme, à la fois de Brexit, de gilets jaunes, ce qui nous amènerait effectivement à nous dire à quoi bon l'Europe. Alors j'ai envie de dire que c'est un momentum qu'on peut saisir comme une opportunité aussi. Et aujourd'hui, cette opportunité, elle doit se baser aussi sur construire une Europe, réinventer une Europe, réenchanter peut-être une Europe sur d'autres bases, certainement plus juste, certainement plus solidaire, certainement plus verte, et justement qui s'appuie là aussi sur toutes ces questions de développement durable et de cet agenda que nous avons. Et donc, c'est de voir tout ça, et je pense qu'il y a moyen de le faire, et ce que nous crient les jeunes, et je peux vous dire, moi qui suis bruxelloise depuis toujours, je n'avais jamais vu ça, et je suis en politique depuis longtemps, depuis 82, et la création de mon parti, j'étais ministre 10 ans, et tout à coup, en décembre 2018, on a vu apparaître ces jeunes, et quand on dit ces jeunes, ils n'ont pas 20 ans, ils ont 14 ans, ceux qui sont dans nos rues, et ils sont là depuis le mois de décembre. Et ils ont été rejoints très très vite, on en parle moins, mais j'ai envie de le dire parce que cette semaine-ci, ils ont également pris le lead, des grands-parents pour le climat, parce que nous avons ça aussi à Bruxelles. Et c'est extraordinaire de voir les deux groupes qui marchent ensemble dans les rues de Bruxelles. Donc quelque part, tout cela, ils nous ont secoués. Nous, quelque part écologistes, on était contents qu'ils nous secouent, parce que c'est vrai que même si on a semé toutes ces graines pendant des années, enfin j'ose l'espérer, il fallait à un moment donné aussi qu'il y ait cette conscientisation. Et attention, je ne suis pas naïve, hein, on n'est pas non plus devant 11 millions de Belges qui sont dans la rue. On est devant des milliers de jeunes et de citoyens. N'empêche, c'est la première fois que ça arrive. En décembre, on était quand même aussi avec les jeunes, 100 000 personnes dans Bruxelles, ce qui pour nous est énorme. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça aussi, c'est que ils ne nous demandent plus des plans, malheureusement, ils nous demandent de l'action. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'on doit retenir de leur part. Et ils nous ont dit, on va continuer. En Belgique, on a loupé le coche. Je le dis directement, vous l'avez peut-être vu, mais le changement dans la Constitution qu'on devait faire en inscrivant simplement, en ouvrant les paragraphes de la Constitution pour inscrire climat, ont été refusés au niveau fédéral. Ont été refusés il y a très peu de temps, il y a 15 jours. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Nous avons aussi des élections européennes, mais fédérales et régionales au mois de mai. On peut espérer qu'une autre majorité va justement ouvrir cette constitution. Maintenant, c'est simplement mettre climat dans le texte, hein, attention. Mais c'est significatif quand même. Et donc là, il y a peut-être une opportunité. Je vais revenir quand même, moi, sur donc, ce qui, pour moi, est totalement nécessaire aussi, et je suis quand même une élue locale et régionale. Nous n'aurons d'Europe aussi que si elle travaille à tous les niveaux, que si elle travaille avec les entités locales. Et quand je dis locales, c'est régions communes. Et qu'il y ait, et pour l'instant il y a des réseaux très forts au niveau européen, entre les villes, entre les régions, qui sont importantes, parce que quand on voit ceux qui sont dans la salle et qui savent comment c'est de travailler au niveau local, savent qu'on est le nez dans le guidon, qu'on n'a pas beaucoup d'aides, qu'on n'est pas comme des ministres, et que donc on ne sort pas beaucoup de chez soi. Et donc ce qui est important, c'est que tous ces réseaux de villes-là, eh bien, depuis quelques années, ils bousculent les nations au niveau environnemental et climatique. Et moi, je crois très fort qu'il y a des choses au niveau de ces questions-là. Et quand je dis climat, entendez-moi bien, hein, c'est global. Hein, je parle autant de biodiversité, de toutes les questions. Parce que maintenant, évidemment, comme climat, je veux dire, est plus peut-être à la mode, n'oublions pas que c'est tout développement durable, biodiversité, toutes ces questions. Les réponses ne sont pas toujours les mêmes, mais en tout cas, c'est la problématique globalement environnementale. Et donc, si... s'il n'y a pas ce lien, et je suis, quand je vous dis, je suis aussi au comité de mon Parti Vert européen, je suis en charge du lien entre le local et le global. L'Europe, elle ne va pas se faire contre les entités locales. Et il ne faut pas le voir comme une concurrence. Parfois, j'ai l'impression que l'Europe a un petit peu peur des entités locales ou des régions, en se disant, les régions, eh ben, c'est du nationalisme, c'est du repli sur soi. Non, il y a moyen vraiment de faire, je veux dire, de faire du win-win. Et moi, j'y crois très, très, très fort, parce que sinon, on ne va pas... Et donc, il ne faut pas avoir peur des entités locales, parce que je crois que c'est vraiment la chance pour l'Europe de se relancer et de se renforcer. Et donc, il y a vraiment deux pôles. Il y a ses citoyens et il y a les entités locales. Je pourrais encore vous parler de participation, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, et je crois que c'est fondamental, mais qu'on ne la galvaude pas. Nous sommes en train, dans ma commune, qui fait quand même 60 000 habitants dans le sud de Bruxelles, où on a remporté au mois d'octobre, nous les Verts, le maire, et je suis assez fière de le dire, et quatre vice-maires, on est en train de mettre sur pied, justement, aussi... un plan de participation des citoyens au plan climat de la commune. Mais j'ai dit d'emblée, attention, pas de bricolage non plus, parce qu'il ne faut pas non plus galvauder le mot participation et se dire on va faire quatre petites réunions où on va demander aux gens ce qu'ils veulent. Ça ne va pas, parce que là, on déçoit et les gens ont l'impression d'être aussi utilisés. Donc, ça se réfléchit aussi, ça se construit. Ce matin, j'ai entendu les critiques par rapport, et je n'en ferai pas, par rapport à ce qui s'est fait en France ces deux derniers mois. Je crois qu'au niveau local, vraiment, là, on doit vraiment réfléchir à cette participation et à cette participation citoyenne et mettre sur la table des outils aussi qui sont des outils concrets, comme par exemple un budget participatif ou d'autres choses qui existent et qui peuvent faire avancer les choses. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dépasser de loin mes 7 minutes. Merci.
Merci, madame. Avec le comité 21 et d'autres organisations, nous avons lancé une initiative dont Bettina a parlé ce matin qui s'appelle Europe Ambition 2030, Europe Ambition 2030. Et une des organisations clés dans cette structure, c'est l'Alliance italienne pour le développement durable. Nous avons eu déjà deux années de suite des conférences successivement au Parlement italien à Rome et puis l'année dernière à Milan. Cette année-ci, il y aura une nouvelle conférence sur l'Europe qui se tiendra à Rome le 21 mai. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Sabina Arvati qui représente the Italian Alliance for Sustainable Development. The Italian Alliance is probably the most important.
Cette alliance est sans doute l'alliance la plus impressionnante en matière de développement durable en Europe, je dirais. Vous allez nous en dire plus sur ses membres et son fonctionnement. Mais votre alliance a également un rôle primordial, puisqu'elle existe dans un pays qui fait face à des défis qui lui sont propres, on va dire. Des défis que nous connaissons tous. L'Italie s'est fait connaître pour son attachement à l'Union européenne. J'ai été à des conférences européennes avec plusieurs collègues à Bergame et d'autres. Et il y avait des drapeaux européens partout. Et puis, ce n'était pas le cas à Londres, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire.
En tout cas, depuis 10 ans, les choses ont changé. Toujours est-il que la question, c'est par rapport à votre organisation, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, aux Italiens en 2019 et comment vos propositions sont-elles accueillies? Merci, merci, Monsieur le Président, et merci au comité, à la commission 2021 plutôt. Au comité 21 et pas 2021. D'abord, deux mots sur notre alliance. Pourquoi ? Parce que ça vaut la peine de le faire, non seulement parce que c'est une expérience unique en son genre, comme vous l'avez dit, mais parce que c'est quelque chose qui est assez unique à l'échelle mondiale. Alors, au début, on a été créé en réponse à une demande, disons, de populaire en Italie par rapport à l'agenda 2020 et des objectifs du développement durable. Alors, c'est la plus large coalition jamais créée en Italie, puisqu'elle réunit 200 membres, donc des organisations, mais certains de ces membres sont déjà des réseaux. Donc c'est un peu un réseau de réseaux, si vous voulez. Et au bout du compte, le nombre d'organismes, d'associations, organisations et autres est assez élevé. Et alors, vous avez donc des ONG, mais vous avez également des associations d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, donc l'agriculture, le commerce, l'industrie, la finance. Enfin, vous avez des groupements professionnels. Et puis, vous avez également des syndicats, des organisations syndicales qui sont présentes. Donc, c'est une très large coalition avec différents acteurs. Quant aux activités de cette alliance, alors essentiellement... Il y a trois grands domaines d'activité. Le premier, c'est un travail de recherche, donc de constitution de statistiques, de définition de modèles économiques. Deuxième grande activité, l'éducation, toujours dans le cadre du développement durable. Et puis troisième activité, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer, l'information, l'engagement. La question de Raymond, dont nous demande en quelque sorte un narratif pour 2019, qu'est-ce que nous allons dire à l'électorat italien, et je me propose de me concentrer sur ce dernier point. En effet, ce que je vais essayer de faire en tout cas, c'est de vous faire apparaître certains des résultats de trois ans d'efforts de communication. Et en s'appuyant sur ces résultats, ce que je propose de faire, enfin à mon sens en tout cas, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas l'opinion de Enrico Giovannini, qui est le fondateur de cette alliance. Enfin, je parle un peu sous sa supervision, mais disons que... Alors, il y a... À la lumière des résultats constatés, on s'est rendu compte qu'il va falloir présenter les choses un peu différemment en termes de communication pour obtenir une meilleure mobilisation, pas simplement d'ailleurs en Italie, mais en Europe. Disons que l'exemple italien sera peut-être un prototype qui pourra servir à d'autres. Mais je crois que fort des résultats constatés, il y a une nouvelle démarche qui s'impose en termes de communication et d'éducation. Alors le gros de la communication... de l'Alliance propose de parler, enfin, est tourné plutôt vers les institutions, les niveaux de gouvernement local ou central. Et là, dans notre dialogue avec les institutions, je pense que la communication a été assez efficace. Et je vais vous donner un exemple pour répondre justement à la question de Raymond Van Herman, et quelques exemples de ce que nous faisons justement au niveau institutionnel. Et il faut bien comprendre que cela s'inscrit dans le narratif de notre alliance. Pour nous référer au rapport annuel de l'Italie et des objectifs du développement durable, l'ODD, enfin, toute cette information se trouve sur notre site internet et notamment en anglais, donc je ne vais pas passer trop de temps à vous en parler. Mais enfin, en gros, il y a un travail que nous menons de sondage d'études, de statistiques. Nos informations sont reprises au plus haut niveau, du Premier ministre et la classe politique. En général, peut-être pas tous les partis politiques, mais presque, s'intéressent à ce genre d'études. Et cette alliance a quand même donné des résultats. L'une des premières propositions qu'on trouve dans notre rapport, c'est un projet de loi en Italie. Et en fait, d'ailleurs, je crois que c'est le seul exemple qu'on ait à ce jour en Europe où, je crois que c'est la première fois qu'on intègre les indicateurs des objectifs du développement durable dans la législation. Et ça, c'est... Alors, notre alliance a fait un travail d'analyse des budgets prévus pour ces ODD, ces objectifs du développement durable. Et évidemment, ces grandes questions ont fait l'objet de réflexions au niveau du Premier ministre et du ministre de l'Économie. Bon, mais revenir maintenant à la question de Raymond, parce que ce n'était pas tellement le dialogue avec les institutions, avec les pouvoirs publics, mais avec, avec nos citoyens. Alors, on a ce qu'on appelle des activités dans le cadre du développement durable. On a le festival. On a, depuis 2015, en Italie, un festival italien, enfin une journée italienne qui est destinée à ces objectifs du développement durable. Et en fait, il y a 17 jours, un jour par ODD, et pendant chaque journée, vous avez des centaines d'initiatives dans tout le pays. Donc, en fait, ce n'est pas une journée, mais c'est 100 journées. Bon, toujours est-il que du 26 mai au 6 juin, on s'intéresse à atteindre le plus large public. Donc, c'est un festival populaire, si l'on peut dire. C'est une initiative véritablement destinée au grand public. L'idée, c'est d'inclure le plus grand public dans cette démarche. Alors, est-ce que cette démarche est efficace en termes de sensibilisation du public aux objectifs du développement durable? Force est de constater que la réponse n'est pas vraiment positive. Quelques résultats d'études que nous avons menées en Italie là-dessus. En 2016, vous aviez 20% des personnes interrogées qui connaissaient l'existence de l'agenda 2020. Or, au début de 2019, on se retrouve avec le même chiffre. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans de communication, de sensibilisation, finalement, la connaissance auprès du public ne s'est pas améliorée. Et puis, en fait, si on voit ce qu'est une véritable conscience du problème, on voit que 5% des personnes interrogées qui étaient en mesure de répondre correctement à des réponses à des questions faciles sur les ODD. Hein. Il n'y avait que 5% des personnes qui étaient suffisamment sensibilisées. Alors évidemment, vous avez des chiffres plus élevés quand vous adressez à l'élite. Évidemment, des gens qui sont de la partie, pour ainsi dire, et qui entendent ce vocabulaire tous les jours, bien sûr, ils connaissent. Mais monsieur tout le monde, non, ils ne connaissent pas. On a fait tout ce qu'on a pu. Et en fait, c'est ceux qui étaient les moins... qui connaissaient le moins ces objectifs et qui étaient le plus sceptiques, c'est ceux qui étaient en même temps les plus méfiants, les plus frustrés, les plus malheureux. Enfin, il y avait une corrélation très claire. Ça, il y a une correspondance entre la méconnaissance ou l'ignorance des ODD et en même temps la méfiance envers tout ce qui vient de Bruxelles. Par contre, la moitié des personnes interrogées, c'est 50%, et là je ne parle pas que des élites, estimaient qu'il était important d'intervenir autour des questions de santé et de bien-être, inégalité sociale, conditions de travail et puis écosystème et changement climatique. Et ça, c'était les préoccupations principales de la moitié des personnes interrogées et qui s'appuyaient sur des expériences personnelles, des connaissances personnelles. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne parlaient pas dans le vide, des gens qui manquaient d'eau à la campagne. On y reviendra, hein, cher ami, mais le problème, c'est qu'on est en train et malheureusement, je suis tenu le maître des horloges et certains de nos amis doivent déjà nous quitter. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir poursuivre, mais je voudrais quand même donner la parole à Dasha Sasic-Silovic, qui est directrice, qui nous vient de Croatie, et qui nous vient, d'ailleurs, qui aura la présidence européenne de l'Europe au premier semestre de l'année prochaine. Alors, cette personne était au cœur des objectifs de développement du millénaire et à l'élaboration des objectifs du développement durable. Dasha a travaillé également à Rio sur le sommet Rio plus 20. Il y a également le réseau européen d'Europe centrale. Alors, comment voyez-vous l'évolution des pratiques où, d'un côté, on cherche un développement durable, d'un côté, une libéralisation de l'économie en Europe, et puis, il faut bien reconnaître, une situation d'instabilité dans votre partie d'Europe. Merci, Raymond. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, je suis dans une situation un petit peu privilégiée parce que je viens d'une des pays les plus névralgiques, enfin, d'un des points névralgiques de l'Europe, puisqu'on est à la semi-périphérie de l'Europe. Alors, est-ce qu'on pourrait parler du flanc sensible de l'Europe? Enfin, c'est une région qui s'est créée après la Deuxième Guerre mondiale et qui se retrouve un petit peu dans des situations comparables. Enfin, je m'explique. On avait la vision de 2030. Qu'est-ce qu'elle signifie pour nous dans les Balkans? La région des Balkans vit quand même dans un état d'après-guerre. 25 ans après donc, la guerre des Balkans, l'un de mes collègues m'avait dit c'est quand même terrible que les meilleures années de ma vie aient été passées dans ce contexte. Alors, on parle de démocratie libérale, et d'autres slogans de ce genre, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucun respect pour la Constitution dans la région, dans tous les pays des Balkans. Une absence totale d'état de droit, un système judiciaire extrêmement lent, pour ne pas dire inexistant, une société civile qui est maintenant de plus en plus étouffée dans la presse, les médias qui sont étouffés. Je parle également des partis écologiques. Il y a quelques années, un des ministres de l'Environnement a donné sa démission du parti pour créer son propre parti de l'Environnement qui a ensuite disparu. Et donc, ce ministre a dû retourner à son parti pour essayer de recréer ce mouvement. On a une transition néolibérale qui crée de la pauvreté, puisque un enfant sur quatre dans la région vit en dessous de la ligne de pauvreté. Et je ne parle pas de $2 par jour, ça c'est des chiffres de la Banque mondiale qui n'ont aucun sens pour nous. C'est des gens qui vivent dans des situations de pauvreté extrême. Ça, c'est ce qu'on a dans les Balkans. Et puis en même temps, vous avez ce phare européen qui nous dit, voilà, si vous vous joignez à l'Union, vous allez arriver à ce niveau de richesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé par rapport au chapitre X, Y, des objectifs, les acquis communautaires, tout cela tombe à l'eau dans la mesure où nous avons changé la législation, qui certes n'est pas respectée, mais nous avons construit une maison sans avoir les fondements. C'est-à-dire que pour les... on parle de gains immédiats, mais qu'est-ce que nous allons y gagner? Vous avez les gens qui sont de plus en plus individualistes, qui essaient de s'en sortir eux-mêmes par leurs propres moyens. Quand j'en avais parlé à Raymond, j'ai dit que je n'aimais pas le mot résilience. Pourquoi? Parce que la résilience, ça n'est pas une vision. La résilience, c'est dire je me débrouille, mais la vision, c'est où je vais. Et nous avons effectivement des élites corrompues qui viennent, qui ont transformer un concept illibéral en un régime autoritaire, mais l'Europe ne règle pas le problème, parce que tout ce qui était des acquis communautaires et tout ça, cela n'existe pas chez nous. Et il y a une apathie politique complète. Il y aura des élections européennes pour les deux pays, la Slovénie, je crois qu'il n'y a pas de problème, mais enfin, vous avez très peu de gens qui vont participer aux élections européennes en Croatie. Alors, pour ce qui est des élections en général, les gens n'y croient plus. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut voter que pour des partis nationalistes ou ethno-nationalistes, ce qui veut dire qu'on a très peu de choix. Et on vous dit constamment que, ma foi, c'est pour protéger votre souveraineté, alors que nous savons très bien qu'aucun pays de la région, aucun pays des Balkans, n'a de frontières fixes avec les autres pays de la région. Donc, quelle souveraineté peut-on protéger? Donc, où ça nous mène-t-il? Eh bien, vous avez des gens qui réagissent, bien sûr, qui réagissent sur les questions du développement durable. Alors, tous les pays ont des plans d'action nationaux sur le développement durable, qu'il s'agisse d'ailleurs de plans d'action national pour l'OTAN ou pour les objectifs du développement durable. On peut avoir ces plans, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est des plans qu'on met dans un tiroir. Essentiellement, les institutions sont réactives, même par rapport à l'Union européenne. Ils essaient aux réunions du Conseil européen, nos représentants, on va les appeler comme ça, sont réactifs plutôt que proactifs, parce qu'ils n'ont pas de vision, justement, parce que une vision a un prix, puisque, évidemment, l'élite dirigeante, si elle définit une vision, elle sera perdante. Et les gens réagissent parce que la réaction, c'est pour essayer de sortir de la situation économique. Alors, on se dit, voilà, je vais faire de l'agriculture bio, je serai subventionné par l'Union européenne, par Bruxelles. Et la question, finalement, combien on aura pu tirer de Bruxelles l'année dernière? C'est lamentable, mais c'est malheureusement comme ça que les choses se passent chez nous. Donc, ce qu'il nous faut... alors, il n'y a pas de façon de mettre en application les règles de l'Union européenne. Les règles existent, mais enfin, on obtient par rapport à des situations concrètes des réponses bureaucratiques qui ne nous font pas avancer les choses. Alors, on nous dit que des gamins de 14 ans maintenant se manifestent, il y a les questions de l'agenda 2020. Mais enfin, vous avez des véritables soulèvements, ou en tout cas des gens qui protestent dans toute la région, qu'il s'agisse de questions d'électrification des zones rurales, de droits génésiques, de conditions de travail. Vous avez des gens qui se plaignent. Et puis, vous avez une fuite des cerveaux, une émigration en 2020. La Croatie verra sa population divisée par deux entre des taux de natalité très faibles, parce que les gens ne voient pas d'avenir pour les enfants, et l'émigration, parce qu'il n'y a pas d'avenir sur place. Et donc, c'est à ça qu'on est condamné. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut vraiment que entre les institutions, le gouvernement, la société civile, enfin la population locale, qu'une vision soit construite, parce qu'on se retrouve entre l'enclume et le marteau. L'enclume, c'est des institutions qui ne fonctionnent pas, qui sont dysfonctionnelles. Le marteau, c'est la société civile. Et au milieu, vous avez une classe politique qui est inactive, qui veut juste s'accrocher au pouvoir. Alors, la question, je parle de leadership, je sais que je suis peut-être trop âgé, mais Willy Brandt, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, en 1989, lorsqu'il a dit qu'il y a beaucoup de choses cachées dans la partie immergée de l'iceberg. Il y aura peut-être des gens qui vont émerger, justement, mais il faut que la politique devienne plus saine, que les gens puissent rendre compte qu'il y a un contrat social. Tony Judd avait écrit un livre qui s'appelait 1945, pourquoi avons-nous créé l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui? Il y a les systèmes d'éducation, de santé, etc. parce qu'il y avait une raison, il y avait un besoin. Mais maintenant, cette raison semble avoir disparu. Nous sommes passés à une autre sphère, à un autre contexte, où le besoin est ailleurs. Mais pourtant, il faut construire la... établir la confiance, rétablir un contrat, un climat de confiance avec nos concitoyens. Il n'y a aucune façon de mesure de confiance. La communication, tout ça, ne sert à rien. Les affiches et tout ça ne servent à rien. Mais pour les Balkans, cette façon de coordonner, d'une part, une vision pour l'Europe, à laquelle les gens pourraient croire pour, dans la perspective de 2003, une telle vision pourrait vraiment... avoir une, faire une différence, parce que les gens pourraient se projeter vers 2030 avec, avec des espoirs, parce que les objectifs du développement durable en soi ne sont pas parlants, ne suffiront pas. Il faut une vision où les gens puissent se projeter d'ici à une dizaine d'années, dire voilà, voilà un peu la société, le monde dans lequel je voudrais vivre, les conditions de vie qui seront les miennes. Alors, les crises sont intervenues avant que tout s'effondre. Enfin, il y a eu les accords de libre-échange, maintenant sont remis en question. Et puis, regardez, nos échanges avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan va construire un stade avec des millions de dollars. La Chine nous construit des usines d'aluminium. Le premier ministre chinois est en Croatie pour visiter une des îles de la Croatie, celle où Marco Polo a vu le jour. Il y a donc le gaz, le pétrole de Serbie. Vous avez, je crois que la Hongrie détient la moitié du pétrole et du gaz de Croatie. Et vous avez une autre puissance étrangère qui maintenant rachète tous les organes de presse. Oui, alors avant de donner la parole au public et aux participants, il était convenu de faire un échange entre les intervenants ici, entre les panélistes. Je tiens quand même à souligner que Agenda 2030, l'Agenda 2030, donc aujourd'hui, est le seul, disons, document visionnaire qui donne qui définit une vision et qui ait été adopté à l'unanimité par tous les États membres au-delà du plan climat. Hein, c'était le seul qui a été adopté et qui remonte, je vous le rappelle, à 2015. Donc, c'est la pierre angulaire, pour ainsi dire, de cette nouvelle Europe que nous appelons de nos voeux. Alors, il ne s'agit pas de discuter des objectifs, parce que tous les pays sont d'accord. Mais par contre, c'est la mise en œuvre de cet accord d'Agenda 2030. Et parmi les moyens de mise en œuvre, il y a le renouvellement du contrat social. Parce que quand on parle des objectifs du développement durable, c'est bien d'un nouveau contrat social qu'il s'agit. Mais à l'écoute des intervenants qui se sont exprimés, des grosses questions se posent. Vous avez la Finlande. La Finlande, qui est l'un des pays les plus riches d'Europe. Un pays qui, selon les Nations Unies, est le pays le plus heureux du monde, où les gens sont les plus heureux, selon les statistiques des Nations Unies. Et en même temps, vous savez que ce sera la population qui s'apprête à voter dimanche dans le sens où vous l'avez dit. Qu'est-ce que cela nous dit ? Parce qu'on constate que vous avez là la Finlande, vous avez maintenant l'Italie où vous avez de belles initiatives qui ont été prises avec votre festival des objectifs du développement durable qui entraîne toute l'Italie. Et en même temps, vous avez des institutions qui sont maintenant qui sont entre les mains de gens qui n'ont rien à voir avec ce programme. Et vous avez donc un pays qui est un petit peu à U et à Dia. Bon, ayant dit tout cela, je vais donner la parole aux autres participants, mais peut-être qu'il serait bon de revoir certains des éléments de la stratégie dont il est question ici. Alors, je voudrais quand même donner la parole à notre amie Evelyne Huitebroek, qui doit nous quitter prochainement. Mais quel est le rôle des collectivités locales dans le suivi des engagements au titre des objectifs de développement durable. C'est que les collectivités locales, mais également les villes, les PME qui se sont engagées. Mais enfin, comment ceux qui se sont engagés dans ce sens, comment vous pouvez les accompagner dans la mise en œuvre de ces engagements? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui... par exemple, le plan d'action sur les forêts, comment pouvez-vous veiller à ce que ces engagements soient respectés?
Le plus difficile à faire, c'est à la fois de faire l'évaluation et à la fois de faire des plans, surtout pour des pouvoirs locaux qui n'ont quand même pas énormément de moyens. Et donc, ça, c'est les outils à avoir. Et quand je parlais tout à l'heure des réseaux, et on peut parler de plusieurs réseaux, il y en a peut-être, je ne vais pas dire qu'il y en a de trop, il doit y avoir une coordination, mais que ce soit la Convention des maires, que ce soit ICLEI, Energy Cities et d'autres, c'est important qu'on nous donne aussi des outils, justement, à la fois pour faire du partage d'expérience, pour faire de l'évaluation et pour faire de la planification. J'ai envie, et je dois vraiment partir parce que j'ai un train, simplement de dire une chose aussi, parce que l'intervention de Madame Silovitch m'y fait penser, c'est la question de cette Europe vache à lait qui est un petit peu considérée. Comme elle en parle, c'est vrai, beaucoup de pays, et le mien en est un aussi, utilisent l'Europe parce qu'il y a des fonds, il y a des subsides. Donc c'est ce que j'appelle un peu l'Europe vache à lait. C'est évidemment pas un projet européen comme cela qu'on le voit. Mais ce qui est vrai, et j'ai été en charge aussi des fonds structurels européens pour Bruxelles en matière de rénovation urbaine, c'est que nous n'avions pas beaucoup, en tant qu'entité locale, de coordination et de lien avec les institutions européennes. Si ce n'était pour, effectivement, nous donner de l'argent et nous donner des comptes, nous n'avions pas à la fois assez de transparence et à la fois de co-construction sur ces questions des fonds structurels, qui n'étaient en plus pas du tout basées sur des questions de développement durable chez nous. Il fallait qu'on fasse certains projets le long du canal qui était situé comme une zone pauvre. Mais pourquoi ne pas justement beaucoup plus utiliser les objectifs du développement durable au travers des fonds structurels et en coordination avec les entités locales? Ça serait beaucoup plus malin et ça permettrait aussi d'avoir une véritable coordination entre le mouvement, entre le niveau local et le niveau européen. Parce que quand nous faisions des projets de rénovation urbaine dans le centre de Bruxelles avec l'Europe, nous invitions l'Europe, à part venir avec une petite plaque pour la mettre sur le bâtiment, nous n'avions jamais vraiment de discussion ou de lien avec l'Europe sur ces fonds structurels. C'est une occasion manquée. Et justement, si on intègre en plus le développement durable là-dedans, il y a moyen d'avoir véritablement autre chose que de voir cette Europe comme étant une donneuse de subsides, en plus sans beaucoup d'évaluation. Je dois vous laisser.
Merci beaucoup, madame. Je pense qu'un élément très intéressant de votre intervention, madame, c'est d'inscrire la citoyenneté européenne et la démocratie participative et de les lier à l'utilisation des fonds communautaires. C'est vrai pour les fonds structurels, c'est vrai pour, par exemple, toute la rénovation du bâti, toute la rénovation du logement. Des millions sont, dans le cadre du plan Juncker, consacrés à la rénovation des logements, la rénovation énergétique des logements. Il faudrait que ce soit l'occasion de créer les conditions d'une démocratie participative et européenne, pour que les gens voient que non seulement il y a de l'argent communautaire, mais qu'ils participent à une réflexion sur les standards, les normes, etc. Un autre domaine où cette réflexion sur la citoyenneté européenne, la démocratie participative et les politiques communautaires pourraient être développées, et c'est là que je vais me retourner vers M. Bachmann, c'est évidemment la politique agricole commune. La nouvelle politique agricole commune devrait être fondamentalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Certains parlent de la future politique alimentaire commune. Vous avez cité la politique agricole dans votre intervention. C'est un des grands enjeux, d'abord parce que ça concerne énormément de milliards dans les programmes pour la future commission. Et il y a un grand problème de participation en la matière. Comment est-ce que vous voyez ça de votre côté?
Well, first of all, I see it.
Tout d'abord, je suis optimiste. On a dit que je ne le suis pas, mais en ce qui concerne l'Europe, je suis tout aussi optimiste que quand il s'agit de la Colombie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Kenya. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le même bateau. La différence est peut-être que moi, je suis un homme du terrain. Donc, je regarde ce que nous, le Conseil, nous, l'Allemagne, on peut faire, en plus de ce qui est fait à l'échelle européenne. Je vais vous citer un exemple de ce que je veux dire. Et c'est lié à ce que vous avez dit en ce qui concerne la transparence, ce qui a été dit après la pause déjeuner. Nous avons un code de développement durable en Europe pour le secteur privé. Cela fonctionne en Allemagne, en Turquie, en Grèce, et nous avons quelques amis en France. Patrick Thumer n'y est plus, mais il y a exprimé un intérêt. J'aimerais que cela devienne un effort européen. Un système simple, un outil simple et robuste, pas cher, pas d'excès de données, très orienté vers une approche matérielle. Et j'aimerais voir la même chose évoluer au niveau européen. Avoir une licence d'exploitation pour les entreprises européennes. Deuxièmement, au niveau du Conseil, j'aimerais qu'il y ait des organes équivalents à travers toute l'Europe, impliquant les parties prenantes. Et j'aimerais qu'ils aient un mandat pour conseiller les gouvernements nationaux, mais aussi avec une liberté en ce qui concerne la possibilité de s'adresser à la société civile, au secteur privé. Et cela ferait partie d'un nouveau modèle de gouvernement. Il s'agit de la confiance et de la responsabilité. Et pour ce qui concerne la confiance, il faut faire le premier pas, sinon cela ne va pas marcher. Donc l'approche Mikado ne fonctionne pas pour la confiance. Mikado, est-ce que vous savez ce dont je parle? Enfin, c'est le jeu Mikado. Donc, moi, je ne bouge pas si toi, tu ne bouges pas. Bon, bref, cette démarche ne marche pas. Nous devons prendre le premier pas en tant que leader. Et pour les citoyens, la semaine d'action en Italie, ça me plaît énormément. On l'a en Allemagne aussi. Et il faut le dire, l'année dernière, en Europe, il y a eu plus de 800 actions individuelles pendant cette semaine-là. La plupart en Italie, en France et en Allemagne. Mais les autres, à l'époque, 28 pays membres, y ont participé. Donc, 8000 multipliés par 100 000 personnes. Donc, vous voyez le nombre, la quantité de personnes, d'individus qui se sont portés volontaires pour faire une action dans l'intérêt du développement durable. C'était leur choix, aucune obligation. Et c'est une force que nous devons exploiter. Merci. Madame Ratti, vous avez parlé des initiatives dans le cadre de votre festival, mais il y en a d'autres au niveau des universités. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui. Je souhaite également conclure ce que je disais tout à l'heure, mais vous aviez raison, je parlais trop. Mais bon, je reprends la parole une deuxième fois. Je vous rappelle que il y a eu énormément d'efforts, mais il y avait en ce qui concerne l'agenda, relativement peu de connaissances. Vous avez parlé des stratégies à utiliser pour mieux sensibiliser le public. Je puis vous parler des résultats liés à la communication. Je vais répondre à la question concernant les universités aussi. Alors, il s'agit de savoir si nous voulons que les gens soient vraiment impliqués dans le développement durable et si nous souhaitons transformer notre société pour que les citoyens deviennent des acteurs du développement durable, à mon avis, il faut s'exprimer de la même façon que les gens dans leur vie quotidienne. Je ne voudrais pas formuler de critiques. Il y a des universités, il y a des experts, bien sûr. Et moi-même, j'en suis coupable. Je suis technicienne, donc je fais partie de ce cercle intérieur. Mais j'ai bien compris que si nous continuons à parler d'indicateurs, de données et même ODD, les gens ne comprennent plus rien. L'agenda est lié très étroitement à la vie réelle, à la vie de tous les jours. L'espérance d'un meilleur avenir, l'espérance d'un bien-être. Et l'optimisme aussi. Cela veut dire que nous, de notre côté, nous devrions y réfléchir en ce qui concerne notre façon de communiquer pour essayer d'impliquer de plus en plus de gens et impliquer les laissés pour compte, donc une bonne partie de la population. Et malheureusement, cette partie de la population souvent vote en faveur des partis populistes. Comme je l'ai déjà dit, nous devons absolument nous exprimer comme les citoyens. Avec un micro, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Dasha, vous n'avez pas parlé de la Serbie. Si j'ai bien compris, en Serbie, il y a des manifestations de rue. Est-ce que vous voulez bien nous en parler, enfin, pour parler d'autres pays des Balkans, en dehors de la Croatie? Bon, j'ai été obligée de parler de la Croatie parce que je vais y retourner. Oui, effectivement, les gens agissent et manifestent. En Croatie, c'est un peu différent. Les manifestations sont liées à des questions particulières. En Serbie, cela fait 20 semaines qu'il y a des manifestations entre 1500 et 15 000 personnes tous les samedis, un peu style gilet jaune. Et pour l'instant, il s'agit d'un groupe diversifié. Les manifestants proviennent d'horizons différents. Dans le cadre de la transition, on a perdu et la politique et l'idéologie qui a été exploitée par la corruption, le lien entre la politique et l'argent. Les gens réagissent, manifestent contre cette situation et un des leaders en Serbie est un homme politique d'extrême droite. Vous pouvez être cynique et dire, pourquoi pas, s'il fait tomber le gouvernement, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va en sortir. Mais qu'est-ce qui va en sortir? Donc, la situation est délicate. Nous avons un très bon exemple en Macédoine du Nord. Il y a un activisme politique, et il y a une volonté politique chez certains manifestants qui a ramené le pays sur le droit chemin. Et cela a été fait avec le soutien de la société civile et des ONG. On commence maintenant à voir les imperfections, parce que une fois que vous êtes au pouvoir, la donne change. Et je me permets de dire à M. Bachmann, oui, vous avez raison. Si vous êtes en dehors de la Constitution, il est facile de critiquer. Mais en même temps, il y a des failles en ce qui concerne le fonctionnement et comment réconcilier le fonctionnement de l'État avec la société civile. Vous avez posé une question en ce qui concerne la mise en œuvre, la surveillance, etc. Beaucoup d'entre vous ici représentent des ONG. Bon, je travaille dans le domaine, ou j'ai travaillé dans le domaine de l'aide au développement, donc je suis au courant des différents éléments. Alors, un des problèmes pour les ONG aujourd'hui, et cela rejoint ce mouvement, est l'aspect financier. Vous n'allez pas obtenir un financement de l'Union si vous n'avez pas déjà les 20%. Ou bien vous devez faire une demande et vous attendez 2 années, donc soit vous n'avez rien, soit vous dépensez votre argent. C'est très bureaucratique. Et nous avons dit cette année que nous ne voulions plus de bureaucratie, mais bon, elle y est. Si vous demandez à votre gouvernement de vous aider dans la formulation de la demande, le gouvernement choisit les ONG qu'il veut aider. Et nous voyons de plus en plus l'émergence de ce qu'on appelle les ONG non libérales. Donc, il faut savoir quels sont les domaines où on gagne rapidement. Et on peut le voir rapidement en Macédoine du Nord. Ou bien Trump. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, vous aurez des résultats ici et là et là. Il y a un terme américain qui dit « boots on the ground », donc des bottes des soldats sur le terrain. Et c'est ce que fait Steve Bannon en Europe. On peut peut-être apprendre des leçons. Alors, la situation en Finlande. Pourquoi est-ce que le pays le plus heureux du monde fait ce qu'il fait? Bon, il faut tout voir dans un contexte plus large, tel que présenté par les collègues. Et il y a des gagnants, des perdants dans la mondialisation. Ceux qui ont gagné immédiatement. Et tandis que les minorités sexuelles, les femmes, par exemple, ont perdu leur emploi parce qu'il y a eu une délocalisation de la production vers l'Asie. Bon, j'ai enlevé mon chapeau de la Commission. Je parle pour la Finlande. On a essayé en Finlande d'examiner la situation et de comprendre ce qui s'est passé. C'était un choc. Nous avons adhéré à l'Union il y a 24 ans, tout baigné dans le bonheur. L'économie allait bien. On était sortis d'une récession. Et maintenant, nous faisons partie d'un monde mondialisé. Nous sommes dans l'Union européenne, donc nous sommes touchés par les effets aussi. Je rebondis à ce qui a été dit par notre collègue Günther et par Dasha aussi, quant à la vision. Le collègue de la Magne dit qu'il n'a pas de vision et la Croatie dit qu'il y a un coût à la vision. Et là, je reviens à la question qui m'a été posée au début. Quel est le rêve européen et comment est-ce que nous allons le mettre en réalité? Oui, la vision a un coût, la transition aussi. Et la Commission a été très honnête, très transparente. Une transition propre n'est pas gratuite. Mais il faut aussi se poser une autre question. Cela va se passer de toute façon. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'arrêter. S'il devait y avoir une réunion G8, il n'y en a plus, c'est le G7 maintenant, mais si jamais il devait y avoir un G8, la Californie devrait en faire partie. C'est la 8e économie du monde. Et les plus grandes sociétés, Google, Amazon, Apple, etc., investissent dans des technologies propres, mais pas en Europe. Donc, l'argent intelligent et l'investissement international contournent l'Europe depuis des années, de toute façon. Donc, la transition propre est en cours. Et pour nous, il s'agit de savoir comment faire face à cette transition, comment mettre en œuvre l'agenda 2030, la stratégie à long terme, parce qu'on aura besoin d'investir plus. Et il faudrait revoir les compétences des gens. Vous avez dit que en Europe, nous ne sommes pas leaders nulle part. Oui et non, pas en technologie, mais nous devons protéger notre technologie européenne néanmoins. Et nous devons absolument aborder cette transition parce qu'elle va se passer de toute façon. Et il faut faire en sorte qu'on ne perde pas sur tous les plans.
Il nous reste un quart d'heure. Alors, des candidats ? Je n'en vois pas.
They're tired. It's Friday.
Ah, madame. Attendez, micro. Veuillez vous présenter, s'il vous
plaît. My name is Myrto Gounatio.
Myrto Gounatio, je viens de la Grèce. Je représente le World Human Forum. C'est une initiative citoyenne qui démarre. C'était très intéressant de vous écouter, surtout en ce qui concerne les Balkans et ce que vous avez dit sur l'Allemagne. Mais il me manque quelque chose, à mon avis. Il faut prendre en considération l'intelligence des citoyens. Les citoyens n'attendent pas que l'élite dise « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Les citoyens ont leur propre intelligence et il faut soutenir les initiatives qui démarrent sur le terrain. C'est ce qu'on a vu en Grèce. On a vu qu'il y a des gens qui agissent et qui trouvent des solutions fantastiques. À titre d'exemple, il y a un groupe de jeunes qui prennent, je pense que l'interprète pense qu'il s'agit d'algues. Donc, ils utilisent des algues pour créer des produits plastiques. Il s'agit de 3 jeunes en Grèce qui parcourent le monde entier maintenant. Et voilà le genre de choses qui manquent dans cette discussion, la contribution des citoyens. Je viens de la Grèce et je vois l'importance de la réinvention de la démocratie. Et il faut prendre en considération le fait que en Grèce, la démocratie appartient au peuple, au démos. Donc, il ne s'agit pas uniquement de voter, mais c'est une contribution quotidienne à la démocratie que l'on voit au niveau des citoyens.
La question de réinventer la démocratie avec M. Peter Schmidt dans la session finale. Encore d'autres questions ? Heureux d'avoir la représentation de la Grèce, parce qu'encore une autre partie d'Europe. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Alors, je voulais simplement signaler qu'il y a une partie d'Europe qui n'est pas présente autour de dans la discussion que nous avons eue jusqu'à présent, c'est les pays d'Europe centrale et de l'Est. Et je voudrais souligner une chose qui, moi, m'a beaucoup marqué. Il existe maintenant des organisations de jeunes des pays du Visegrad, qui sont donc la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la République de Slovaquie, qui se sont organisés autour des objectifs du développement durable, comme étant la nouvelle proposition politique pour les pays de Visegrád. Et donc, il y a une organisation qui s'appelle Visegrád for Sustainability, Visegrád 4 Sustainability. Si vous googlez, vous trouverez les informations là-dessus. Voilà. Si on est au clair, je propose que l'on conclue la conversation à ce stade. Comme ça, la session finale pourra se déployer comme voulu. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Thank you very much. Merci.